La situation au Proche-Orient, à présent, Israël poursuit son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza. Hier, les États-Unis ont utilisé leur veto pour bloquer une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, résolution qui appelait à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Anne-Sophie Varmont, vous êtes notre envoyée spéciale à Jérusalem, la bande de Gaza toujours bombardée, mais en parallèle, il semble que Tsahal mène des opérations pour tenter de sauver des otages. Racontez-nous.
Oui, tout à fait. Cette opération, elle a été menée hier par l'armée israélienne. Une opération durant laquelle deux soldats de Tsahal ont été grièvement blessés et plusieurs terroristes tués. Alors, des terroristes qui ont participé aux attaques du 7 octobre. Malheureusement, il n'y a aucun otage qui a été libéré lors de cette opération. Mais en fait, c'est très intéressant de voir que l'armée israélienne communique sur l'opération tout simplement parce que, en temps normal, elle communique plutôt sur l'avancée de son offensive et c'est la première fois qu'elle parle d'une tentative de libération d'otages sur le terrain. Alors surtout, ce que cela montre, c'est qu'il y a une grosse pression de la part des familles d'otages qui demandent le retour d'une trêve pour récupérer leurs proches. Il y a notamment eu une rencontre entre le gouvernement israélien et les familles d'otages très récemment, une rencontre houleuse où les familles d'otages ont réclamé que tout soit mis en œuvre pour récupérer au plus vite leurs proches.
Merci beaucoup, Anne-Sophie Varmont avec Camille Fournier, envoyée spéciale de BFM TV à Jérusalem. La situation au Proche-Orient et la crainte d'une importation du conflit en France. Armand R., l'homme mis en examen pour l'attentat perpétré près de la Tour Eiffel le week-end dernier, a expliqué cette semaine avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Cet homme avait déjà été condamné en 2018 parce qu'il projetait une attaque terroriste à la Défense. Il a été libéré de prison en 2020 et ça pose donc la question du suivi des détenus condamnés pour terrorisme une fois qu'ils sortent de prison. Combien sont-ils ? Comment sont-ils suivis ? On va d'abord regarder les chiffres clés avec vous, Jeanne Daudet. Combien y a-t-il de détenus radicalisés dans les prisons françaises, Jeanne ?
Alors, on dispose des chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans nos prisons, sur 75 000 détenus au total, 391 sont condamnés pour des faits de terrorisme. 462, vous le voyez, ont été condamnés pour des faits de droit commun, mais sont soupçonnés de radicalisation aussi.
Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre des détenus condamnés pour terrorisme qui sont déjà sortis de prison ou qui vont bientôt sortir de prison ?
Alors, depuis 5 ans, depuis en fait l'été 2018, 486 détenus condamnés pour des faits de terrorisme ont été libérés après avoir purgé leur peine. Il s'agit en grande majorité d'hommes. Il y a aussi 84 femmes, selon toujours les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce qui fait en moyenne 90 détenus condamnés pour terrorisme qui sont sortis de prison chaque année. On va regarder cette fois-ci les chiffres pour ce qui est de l'année 2023, l'année que nous sommes en train de terminer. 86 détenus ont été condamnés pour terrorisme et vont sortir ou sont sortis de prison cette année. C'est déjà le cas pour 84 d'entre eux, l'immense majorité. Deux doivent encore être libérés d'ici la fin du mois de décembre. Pour 2024, eh bien, il est prévu que, vous le voyez, 36 détenus condamnés pour terrorisme sortent de prison. 34 autres pour 2025. 9 fois sur 10, ces sortants de prison sont libérés après avoir purgé l'intégralité de leur peine. Parce que les aménagements de peine en matière de terrorisme, eh bien, c'est extrêmement rare.
Merci beaucoup, Jeanne. Alors, que se passe-t-il une fois qu'ils sortent de prison ? Certains détenus font toujours l'objet d'une obligation de soins. Celle-ci peut effectivement se poursuivre après la peine de prison, après la sortie de prison, avec une difficulté, nous dit Anne Sénéquier, l'impossibilité d'être derrière ces personnes 24 heures sur 24.
C'est pas aussi simple que de dire je donne un médicament donc il ne se passera rien.
Oui,
il y a le process de la pulsion, du passage à l'acte et c'est toute la problématique. On peut pas suivre. En fait, il faudrait être H24 derrière une personne et ça n'est pas possible parce que le passage à l'acte, il se nourrit aussi du contexte. Donc il y a la pathologie, il y a le traitement, il y a le suivi, mais il y a le contexte qui est un cadre de contrainte qui à un moment donné presse trop fort autour du patient et qui va justement craquer.
D'après le ministère de l'Intérieur, une fois leur peine purgée, 95% des détenus pour terrorisme font l'objet d'une mesure judiciaire ou administrative. Alors, quel type de mesure concrètement ? On va regarder tout ça. En 2017, ont été instaurées les MICAS, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, qui prévoient par exemple d'interdire à l'ex-détenu de quitter le périmètre de sa commune pour faciliter sa surveillance ou encore de l'obliger à venir pointer une fois par jour au commissariat. Depuis mars 2022, il existe aussi la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste qui impose certaines obligations ou interdictions aux condamnés à l'issue de leur peine, par exemple l'obligation de résider dans un lieu déterminé ou d'avoir une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle. Merci Jérôme Poirot de nous avoir rejoints. Est-ce que par ailleurs, ces détenus, une fois qu'ils sont sortis de prison, est-ce qu'ils sont tous surveillés par les services de renseignement ?
Oui, et c'est très heureux parce que les mesures que vous avez indiquées là nécessitent pour la plupart d'entre elles en fait la collaboration de ces personnes parce que ce sont des obligations, elles les respectent ou elles ne les respectent pas. Et donc, fort heureusement, les services de renseignement, pour l'essentiel, la DGSI, la célèbre DGSI, compétente en matière d'antiterrorisme, surveille ces détenus. Alors, ce sont des écoutes informatiques, des intrusions, des écoutes téléphoniques, des intrusions dans leur matériel informatique, ça peut être des filatures, et puis aussi, c'est la surveillance de leur entourage, de leur fréquentation. Mais ces surveillances, d'abord, elles nécessitent beaucoup de moyens, évidemment. Quand on passe à une filature, vous imaginez bien qu'il faut beaucoup de monde pour surveiller quelqu'un 24 heures sur 24. Et puis, elles sont soumises à des autorisations. Et non seulement de leur ministre et du Premier ministre, mais avant tout, et c'est elle qui a le dernier mot, d'une autorité administrative indépendante qui est très sourcilleuse sur la liberté, les libertés individuelles des anciens terroristes. Donc, en fait, on est dans un cas de figure où il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Tous ne peuvent pas être mobilisés autant qu'il serait nécessaire. Et donc, nous avons beaucoup de trous dans la raquette.
Cette surveillance, d'ailleurs, Christophe, on imagine qu'elle a un temps limité. On dit pas on va surveiller à vie ces personnes-là une fois qu'elles sont sorties de prison.
C'est bien tout le problème qui va se poser, c'est qu'on les surveille intense, des mesures qui doivent être renouvelables. Encore faudra-t-il établir la continuité de cette dangerosité, parce que c'est une sorte de sûreté, de rétention de sûreté sans rétention. Ces mesures, notamment dans le cadre MICAS. Par ailleurs, plus les détenus sont libérés tard, plus ils ont fait une longue peine, plus ils sont censés être dangereux, puisqu'ils ont été condamnés pour des faits plus graves. Donc on en prend quand même pour des années et des années de doutes, d'inquiétudes et donc de surveillance. Enfin, ça doit être accompagné par les inquiétudes que l'on a sur ce que l'on appelle la déradicalisation. Est-ce que l'on peut vraiment déradicaliser quelqu'un qui a basculé dans l'islamisme politique, voire dans le djihadisme ? Et là, on va avoir des interprétations différentes. Certains vont dire oui, on arrive à obtenir des repentis et à transformer ces repentis même en prosélytes de l'universalisme républicain pour dissuader des jeunes de suivre la mauvaise voie. Et d'autres vous disent non. Quelqu'un qui a été à un moment donné djihadiste actif restera toute sa vie quelqu'un qui peut être un danger pour la paix civile. Et donc, on est parti pour des années d'angoisse sociétale. On retrouve un peu la même angoisse qu'avec les délinquants sexuels. Alors, comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais on voit bien aussi comment ça peut créer dans la société une inquiétude. Si on disait aux gens, ah, dans votre ville, dans votre quartier, s'est installé quelqu'un qui a fait des années de prison pour terrorisme ou tentation terroriste, comment réagirait la population ? C'est ça aussi qu'il va falloir accompagner. C'est l'attitude de la population vis-à-vis de ces gens-là. C'est pourquoi l'idée d'une partie de la droite dure et de l'extrême droite de mettre tous ces détenus dans des maisons spécialisées, par exemple tous les fichiers S islamistes, de les mettre dans des sortes de centres de rétention, est une idée qui ne sera pas acceptée par la population. Si on vous dit demain, à Montauban, à Angoulême, à Issoudun, il y aura 70 ou 120 présumés djihadistes, en tout cas fichiers susceptibles de basculer dans l'islamisme le plus agressif, on les met là, dans votre ville, pour mieux les surveiller. Vous imaginez la réaction de la population.
Alors on va écouter l'avocat Thibault de Montbrial, spécialiste des questions de sécurité. Il était invité de BFM TV, c'était jeudi matin à 8h30.
Je ne dis pas que les gouvernements successifs n'ont rien fait. Je dis que là, ils ont agi. Et c'est sans doute le domaine sur lequel ils ont le mieux agi. Mais on est avec des sacs de sable sur une plage alors que c'est un tsunami qui arrive.
Est-ce que vous partagez ce sentiment, Jérôme Poirot ?
Ah oui, oui.
On est avec des sacs de sable face à un tsunami qui arrive.
Oui, il y a beaucoup de cela parce que dans les chiffres que vous indiquez, les 481 personnes qui sont sorties après avoir été condamnées pour des faits de terrorisme, effectivement, ce ne sont pas les plus violents, ceux qui ont commis les crimes les plus atroces.
Mais s'il faut effectivement les suivre et suivre leur entourage, ça fait quand même beaucoup de monde.
Mais d'ailleurs, le patron de la DGSI, dans une interview hier, indiquait qu'en gros, il considérait qu'une bonne moitié d'entre eux étaient désengagés, non pas déradicalisés, mais désengagés, qui est un terme beaucoup plus judicieux, je pense. C'est-à-dire qu'on espère que aujourd'hui ne recourront pas à la violence, mais un certain nombre d'entre eux.
Et c'est ce que disait aussi le terroriste qui a agi là ces derniers jours. Il disait que lui-même était revenu et que.
Bien sûr.
Donc finalement, on n'est jamais sûr.
Ce que dit le patron de la DGSI, c'est qu'un certain nombre, il n'a pas donné le nombre, libérés récemment, il n'a pas dit quand, sont déjà retournés en prison au mois d'octobre pour des peines de 5 ou 6 ans de prison pour apologie du terrorisme. Et puis le terroriste de Bir Hakeim de samedi dernier, c'est le premier récidiviste en matière de terrorisme.
Alors,
il a déjà été condamné pour des faits de terrorisme.
On va en parler dans un instant. Sur le profil des condamnés pour terrorisme, vous le disiez tout à l'heure, les désengagés, il faudrait qu'on voit ces profils, s'il vous plaît, à l'antenne. Les désengagés, ce seraient les deux tiers, en fait, des condamnés pour terrorisme qui sont sortis de prison. Il y a aussi ceux qui sont toujours prosélytes et violents. Et puis les ambivalents, et ces profils-là, c'est très compliqué. D'ailleurs, les autorités disent ces profils ambivalents, ils peuvent être très intelligents et très manipulés.
Oui, c'est manifestement le cas du terroriste de samedi dernier près de la Tour Eiffel. Et là, on bute sur une difficulté, celle que vous indiquiez, Christophe Barbier, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'éléments suffisants attestant que dans la durée, ils sont potentiellement dangereux, eh bien toutes les mesures administratives ou menées par les services de renseignement pour les surveiller ne pourront pas perdurer. Donc là, on a un risque qui est très très important.
On va regarder deux profils de condamnés pour terrorisme qui, en fait, ont récidivé. Il y a eu notamment Chérif Kouachi, auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Ce djihadiste avait déjà été condamné en 2008 pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants en Irak. Larossi Abala, le tueur du couple de policiers de Magnanville en 2016. Cet homme avait été condamné en 2013 pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. On le disait tout à l'heure, 486 détenus libérés ces 5 dernières années. Sur ces 486 détenus, vous nous dites, c'est le premier, celui de la semaine dernière, Armand R, c'est le premier à récidiver ?
Oui.
Le seul ?
Pour des faits de terrorisme.
Pour des faits de terrorisme, bien sûr.
Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été condamnées au mois d'octobre à des peines de 5 et 6 ans de prison pour apologie du terrorisme. C'est quand même une infraction qui est très voisine. Il faut bien avoir en tête que nous sommes là en présence de nos ennemis. Ce sont des individus, parce qu'ils ont conduit des projets terroristes, qui en veulent à notre civilisation, à notre mode de vie. Ce sont des ennemis de la liberté, des ennemis de l'égalité, des ennemis de la démocratie. Donc je pense que, mais on le voit dans le débat politique aujourd'hui et au sein du gouvernement, la Première ministre dans son interview il y a deux jours aussi, tout le monde considère que nous ne sommes pas, pour l'instant, armés pour faire face de manière certaine à cette menace qui n'est pas prête d'être réduite.
On va écouter Jordan Bardella du Rassemblement National. Il veut élargir, systématiser la rétention de sûreté.
Rétention de sûreté systématique pour les affaires liées au terrorisme islamiste. Parfaitement.
C'est bien qu'on ne sort jamais. Vous ne croyez pas en la directe.
Et pourquoi pas? Non mais enfin, je ne vais pas vous... Pardon? À partir du moment où vous fomentez un attentat contre la France, que vous dormiez le reste de votre vie en prison, je trouve ça parfaitement sain et parfaitement normal.
Proposition qui a fait débat, Christophe Barbier, cette semaine.
Bien sûr, parce que d'abord, la perpétuité réelle, c'est quand même quelque chose de compliqué juridiquement. Ensuite, pour les terroristes qui sont déjà détenus, on ne peut pas faire de mesures rétroactives. Donc ceux dont on a parlé, ceux qui sont appelés à sortir dans les années qui viennent, ils sortiront. On ne peut pas leur dire, ah, finalement, on a oublié de vous dire, entre-temps, on a changé la loi et vous allez rester toute votre vie en prison. Pour le futur, en revanche, et ça sera un des enjeux de la campagne présidentielle 2027, on voit bien que le durcissement de la défense de la République contre les terroristes va être au menu de cette élection. Et là, chacun ira de ses propositions. L'intensité de l'angoisse par rapport au terrorisme, elle dépend aussi de la situation géopolitique. Il y a eu la période GIA Algérie, il y a eu la période Afghanistan, la période Daesh, et là on voit bien que depuis le 7 octobre, il y a une nouvelle période de tension qui s'est ouverte, d'où le retour dans le débat politique des propositions les plus fermes.
Jérôme Poirot, quelles seraient les pistes justement pour mieux suivre ces personnes condamnées pour terrorisme une fois qu'elles sortent de prison?
Alors, il y a déjà une mesure très très simple, c'est d'éloigner tous les étrangers. Donc, il y a encore, et c'est un des enjeux de la loi immigration, un certain nombre de verrous qui empêchent d'expulser des étrangers.
Les étrangers condamnés pour terrorisme, oui, une fois qu'ils sortent de prison.
Voilà, mais par exemple, des étrangers qui sont en France qui était établi en France avant l'âge de 13 ans. Il y a la possibilité de déchoir de la nationalité les binationaux pour faciliter l'éloignement. C'est quand même une mesure très, très efficace. Hein. Des individus dangereux qui ne sont plus sur le territoire national, évidemment, ils ne vont pas commettre d'attentats en France.
Mais la défense de nationalité a provoqué une crise politique quand, après 2015, après les attentats du Bataclan, François Hollande avait tenté de la faire adopter.
Mmh. Oui, mais vous voyez bien que s'il y a toute une vague d'attentats, la crise politique sera d'une...
Ça reviendra dans les propositions, bien sûr.
Certainement. Et puis, il y a des dispositions qui pourraient être créées, voyez-vous. Vous parliez tout à l'heure de pédopornographie. Ça fait deux fois que les précédents gouvernements, en 2016 et en 2018, se font retoquer par le Conseil constitutionnel, qui est dans son rôle, des dispositions visant à criminaliser le fait de détenir des images djihadistes ou de consulter des sites djihadistes. Pour les pédophiles, la peine, c'est 5 ans de prison. Le Conseil constitutionnel considère que ça n'est pas possible d'imposer une peine de la même nature pour des personnes qui consultent des sites djihadistes. Ça devient incompréhensible.
En expliquant que ça peut être des professionnels, journalistes, chercheurs, oui, universitaires,
cela mais
on devrait pouvoir faire le distinguo.
Il y a d'autres propositions qui ont émergé dans ce champ-là, pour mieux suivre. On a parlé de celle du Rassemblement National. Il y a d'autres idées ou pas?
Non, les propositions qu'on a entendues sont des propositions de cette nature-là, c'est-à-dire extrêmement fermes, extrêmement radicales.
Ouais. On va regarder des chiffres quand même qu'il faut aussi avoir en tête. 3 projets d'attentats déjoués en 2023 et 72 projet d'attentat depuis 2013, depuis 10 ans. Et ces chiffres-là, il faut les avoir en tête aussi, parce qu'on parle souvent des attentats quand ils ont lieu.
Bien sûr.
Il y a aussi de nombreux projets d'attentats qui ont été déjoués, Jérôme Poirier.
Ah ben oui, ça montre l'efficacité des services de sécurité et des collaborations qui existent entre l'ensemble des services de renseignement en France et avec leurs partenaires étrangers. Donc c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'y vois aussi une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que tous les ans, il y a des projets terroristes qui sont conduits. Alors, ils sont déjoués à des stades, parfois à la toute dernière minute. Donc, parfois, on y échappe de peu. Donc, évidemment, il faut féliciter les services de sécurité. Mais ça montre bien que la menace demeure très, très élevée et qu'elle demeurera très élevée pendant des années.
Merci beaucoup, Jérôme Poirot, pour votre analyse.